d'abord que ce champ de recherche existe, que des acteurs s'en réclament, qu'il y ait des lieux de production de cette recherche ou même tout simplement que ce champ puisse être nommé dans la langue du pays et ce faisant clairement identifié. Alors tout ça ne va pas de soi en Chine. Certes, le français est enseigné depuis longtemps, même s'il n'a jamais occupé une place majeure parmi les langues étrangères, mais entre enseigner le français comme langue étrangère, voire produire un discours sur cet enseignement, ainsi que du matériel pédagogique, et en faire un champ de recherche, il y a un pas dont il faut se poser la question de savoir jusqu'à quel point il a été franchi et dans quelles conditions. Alors, ma question sera la suivante. Peut-on identifier et le cas échéant, donc caractériser un champ de recherche en français langue étrangère en Chine avec ses limites, sa dynamique, etc., etc. Et si oui, depuis quand au point de vue de la méthodologie, en fait, ce que je vais présenter là fait partie d'une recherche plus large, mais je vais surtout m'appuyer sur une analyse documentaire des recherches menées dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Et en fait, essentiellement, comme vous allez le voir, je vais m'appuyer sur les thèses qui ont été produites ces 20 dernières années. Alors, plantons le décor tout d'abord, la francophonie universitaire chinoise. J'ai beaucoup de difficultés avec le terme francophonie tout court, puisqu'il est de plus en plus malmené, car trop souvent suremployé, tout en étant peu ou pas défini. En revanche, c'est vrai que la notion, il y a une notion que je trouve prometteuse, c'est celle de francophonie universitaire. Alors, je propose de l'utiliser ici dans un cadre national, et je trouve qu'elle me permet de mettre un nom sur des espaces très actifs de la francophonie contemporaine, mais souvent ignorés, voire méconnus, car non réellement nommés et donc pris en compte, notamment par les acteurs institutionnels majeurs. Et donc, en changeant d'échelle d'analyse, on se retrouve effectivement dans la position du biologiste qui, en réglant différemment micrométrique de son microscope, parfois arrive à voir une réalité qui lui aurait autrement échappé. Et donc, dans ce cas présent, si on se place à un niveau intermédiaire, donc pas celui des États, mais pas non plus celui des universités, donc entre les deux, et en suivant donc comme lien la langue française et son enseignement dans le supérieur, on découvre, en tout cas dans le cas de la Chine, une activité grouillante et des lieux d'échanges dynamiques mais aussi complexes. Donc, c'est ce que j'appelle la francophonie universitaire chinoise. Alors, cette francophonie universitaire chinoise, si elle n'est pas récente, elle a pris une ampleur inédite depuis le début des années 2000, puisque on avait en 1999 32 universités dotées d'une section ou d'un département de français, et on est passé en 2018 à plus de 170, et là on a dépassé les 180. Et dans ces 170, on a une quarantaine proposant un deuxième cycle et une dizaine un troisième cycle. Et ce développement continue, ça se poursuit, puisque chaque année, on a entre 5 et 9 universités qui ouvrent en Chine une section de français. Alors, en plus de ça, je tiens à dire que la francophonie universitaire chinoise occupe une place majeure dans la région, puisque si on regarde l'Asie de l'Est et du Sud-Est et qu'on considère non pas le nombre total d'apprenants qu'on retrouve dans les ouvrages de l'OIF, mais ça ne veut souvent pas dire grand-chose, je parle à nombre total à tous les niveaux, mais vraiment les apprenants qui sont impliqués dans un enseignement à long terme, notamment au niveau universitaire, eh bien on est à au moins 25 000 en Chine, ce qui dépasse largement tous les chiffres de la région. Alors bien sûr, aucune université chinoise n'est francophone en tant que telle, ça c'est sûr, mais toutes ces universités n'ont pas les trois niveaux, beaucoup c'est simplement le premier cycle, tous les enseignants ne sont pas non plus docteurs et ne font pas de la recherche, mais tout de même, cette francophonie universitaire chinoise est assez dynamique et elle s'inscrit dans le cadre d'universités chinoises en général qui sont en train de faire à la fois un saut quantitatif, mais surtout qualitatif. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai appelé donc dans mon titre une approche écosystémique. Eh bien, c'est justement de considérer cette francophonie universitaire chinoise comme un écosystème avec son propre mode de fonctionnement, mais qui interagit aussi avec d'autres écosystèmes. Alors, c'est donc dans ce cadre écosystémique que je vais placer ma réflexion historique et donc essayer de voir comment les choses ont évolué par rapport à la recherche en didactique du feu en Chine depuis 1949. Si une réflexion didactique a existé en Chine concernant l'enseignement du français dès la fin du 19e et tout au long du 20e siècle, réflexion plus ou moins intense, plus ou moins structurée selon les époques et les aléas historiques, ce n'est vraiment qu'à la fin des années 1990 que les recherches en didactique du FLE ont connu un véritable développement, aussi bien quantitativement que qualitativement, développement qui s'est même accéléré ces dernières années. Il est ainsi possible de distinguer plusieurs périodes dans l'histoire de cette recherche en didactique du FLE. J'ai en fait pour ma part repéré, donc si vous voulez, d'abord ce que j'appelais une période avec des pionniers, donc une période assez longue, hein, puisque ça commence à la fin du 19e siècle, enfin, ça dure en fait quasiment un siècle, et puis ensuite deux générations très rapprochées, une première génération que j'ai appelée les fondateurs, et puis une deuxième génération que j'appelle la relève. Alors, pour les pionniers, quelques mots simplement, jusqu'à la fin des années 1970, ce qui domine dans la réflexion didactique est surtout le retour réflexif sur expérience, ainsi que la production, très contrôlée à l'époque, de manuels. La réflexion didactique commence à être plus structurée et plus systématique à partir de la toute fin des années 1970, c'est évidemment en lien avec les transformations que la Chine va connaître par rapport, enfin, en conséquence, si vous voulez, de la politique de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping à partir de 76-78. Et c'est vrai que ça ouvre une période de structuration ou de restructuration des départements universitaires et de construction ou de reconstruction des disciplines académiques. Dans le cas du français et des langues étrangères plus généralement, ça va se traduire par la rédaction des programmes nationaux, la production de nouveaux manuels, du dictionnaire, autrement dit, tout ce qui est jugé nécessaire à la structuration de l'enseignement du français au niveau universitaire. Alors tout ça s'est souvent fait à travers des moments d'échange importants entre enseignants universitaires de français à une époque, pardon, où les départements de français étaient peu nombreux, hein, on est même à moins de 30 à ce moment-là. Alors, si cette période est marquée par une faible production académique, peu d'articles, peu de thèses, et par la faiblesse des moyens disponibles pour la recherche, hein, ça ressort dans toutes les entrevues, cette période va incontestablement préparer le terrain pour la période suivante, et donc ces deux générations d'enseignants de français, pardon, et ces différentes générations, excusez-moi, d'enseignants de français que j'ai appelés les pionniers, je me mélange dans mes notes, ces différentes générations d'enseignants de français ont en quelque sorte joué un rôle pionnier. Voilà, je vais y arriver à sortir ma phrase. Bon, alors, le tournant majeur, ou le deuxième tournant majeur après Deng Xiaoping, c'est la fin des années 90 et le début des années 2000. C'est vraiment à ce moment-là que la recherche en didactique du FLE va prendre un véritable essor, d'abord timidement, mais après un rythme beaucoup plus soutenu. Alors pourquoi? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'histoire de l'enseignement supérieur chinois. C'est assez peu connu à l'extérieur de la Chine, mais le paysage universitaire chinois change considérablement dans la deuxième partie des années 1990. On a une réorganisation complète, des fusions d'universités, un processus de massification de l'enseignement supérieur. Cette dernière politique, d'ailleurs, ça va entraîner le développement quantitatif des sections et départements de français. C'est aussi le début d'un investissement massif dans la recherche à travers différents programmes. Et on a aussi une mobilité sortante d'étudiants beaucoup plus importante qui va entraîner, donc à partir des années 90, le départ d'étudiants. En fait, en réalité, c'était plutôt des enseignants qui étaient déjà en poste, des enseignants de français déjà en poste, qui vont donc généralement aller en France pour y acquérir un diplôme de deuxième et surtout de troisième cycle. Alors, ce phénomène-là, ce mouvement, va s'accélérer à partir de 2009-2010. Alors, essayons peut-être de voir les éléments de continuité, les éléments de rupture entre ces différentes périodes. Ce qui va changer à partir de la fin des années 1990, je crois, c'est la systématicité de la démarche. Le doctorat devient le diplôme incontournable, le nombre de thèses soutenues en peu d'années augmente, la formation aussi à des méthodes de recherche permettant de poser les premiers jalons d'une discipline et de participer à la construction de départements universitaires est à noter. Car non seulement ces enseignants, dans leur grande majorité, vont revenir, mais beaucoup vont prendre des responsabilités. Donc, de retour en Chine, ils vont largement contribuer au développement de leur département de rattachement. Et ce n'est pas un hasard si les programmes de deuxième cycle de français connaissent un développement important depuis justement le milieu des années 2000. Ils vont donc contribuer, tous ces étudiants qui étaient en fait enseignants, ils vont contribuer à et profiter d'une plus grande stabilité académique. Et ça, c'est un contraste considérable avec la période justement des pionniers que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si je reviens à mon tableau tout à l'heure, si ce mouvement ne se tarit pas aujourd'hui, on peut quand même donc distinguer deux générations, comme je le disais. Les premiers qui sont partis dans les années 1990-2000 et qui ont posé à leur retour les premiers jalons de la recherche en didactique du FLE. Donc, j'ai appelé cette génération les fondateurs. Et puis, donc, depuis une dizaine d'années à peu près, on a une deuxième génération, donc la relève. Alors, les enseignants de la première génération ont suivi leur formation doctorale à l'étranger, essentiellement en France. Et pour cause, avant 2000, on a seulement deux universités en Chine qui proposent un doctorat en français, l'Université de Pékin et l'Université d'études internationales de Shanghai. Significativement, leur jury de thèse est souvent composé entièrement de professeurs français. Alors, de cette première génération, on peut citer Wang Wenxing, qui a fait sa thèse sur l'enseignement du vocabulaire, Foulon, j'y reviendrai, sur l'enseignement du français juridique, Kucherong, Xieyong et Roulu, c'est des thèses dans le domaine de l'interculturel, et Wang Mingli, probablement le seul à ce moment-là, a essayé de poser un regard plus global sur l'enseignement universitaire du français en Chine. Donc, concernant les thématiques de recherche, ce n'est pas évident de trouver des points communs dans la démarche de cette première génération. Est-ce que c'est le hasard de l'inscription dans telle ou telle université, ou le hasard des rencontres, ou le choix délibéré d'un directeur de thèse d'une université? Il faudrait peut-être mener l'enquête plus en profondeur pour y répondre. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai appelé cette génération un petit peu une génération de touche-à-tout par rapport aux thématiques. Alors, dans cette génération, c'est vrai qu'il faut distinguer, je crois, deux professeurs, le professeur Foulang et le professeur Poucheron, parce qu'ils sont assez, déjà par le rôle qu'ils jouent, qu'ils ont joué, qu'ils continuent à jouer pour institutionnaliser, forger la recherche en didactique du français langue étrangère en Chine, mais parce qu'ils sont aussi symboliques de cette première génération, en ce sens que dans leur formation intellectuelle, mais dans leur jeunesse aussi, dans leur jeunesse et dans leur formation intellectuelle, ils ont été marqués par la révolution culturelle, et en même temps, ils ont participé au mouvement de stabilisation des universités, de construction ou reconstruction des disciplines. Comme le disait une personne que j'avais interrogée justement pour cette recherche, ils incarnent la première génération après la révolution culturelle qui forme ceux qui vont lui succéder. Et ça, c'est un point, je crois, qui me paraît important. Alors, Foulong à Pékin a été donc celui qui a ouvert en premier en Chine un master en didactique des langues, culture étrangère, puis ensuite un doctorat dans la même discipline. Et Poucherong joue un rôle aussi très dynamique à plusieurs milliers de kilomètres de là, puisque c'est à Canton, à l'université Sun Yat-sen. Alors, la deuxième génération, donc la relève, c'est pas aisé quand même de fixer une rupture chronologique précise entre les deux générations. D'ailleurs, elles sont très proches. Donc, on remarque tout de même que des éléments distinctifs commencent à émerger à partir de 2010. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je travaillais sur ce corpus de thèse, au début, je n'avais pas vu ça comme deux générations. C'est petit à petit que j'y suis arrivé. Alors, c'est clair que des éléments caractéristiques de la première génération perdurent encore. Par exemple, faire sa thèse en France sans qu'aucun professeur ou chercheur chinois ne soit impliqué, soit comme directeur, soit comme membre du jury. Pourtant, ce qui commence à gagner en importance à partir de 2010, ce sont les thèses en co-tutelle ou en co-direction, donc un enseignant-chercheur français et un enseignant-chercheur chinois issu de la première génération, avec souvent une inscription dans deux universités, une française et une chinoise, ou plus récemment, une inscription uniquement dans une université chinoise avec une thèse dirigée par un enseignant-chercheur de la première génération. Et de fait, les universités chinoises proposant un doctorat de français, alors l'appellation peut changer, elles sont désormais autour d'une dizaine. Et les enseignants-chercheurs chinois habilités à diriger des recherches sont également de plus en plus nombreux. L'analyse de la composition des jurys de thèse est à cet égard significative. Dans les années 2010, on commence progressivement à y voir figurer des chercheurs de la première génération. Par ailleurs, si ces doctorants sont pour la plupart des gens déjà enseignants, comme leurs aînés l'étaient au moment du départ, ils sont souvent plus jeunes et avec une expérience, enfin plus jeunes au moment du départ, et avec une expérience, parfois une expérience d'enseignement assez réduite. Alors, conséquence logique de toutes ces observations, les thèses soutenues en didactique du FLE sont de plus en plus nombreuses à partir de 2010. Dans mon inventaire, qui est non exhaustif, hein, j'ai ratissé large, mais je ne pense pas les avoir toutes. Je compte 9 thèses entre 2000 et 2009 et 27 entre 2000 et 2018. Donc, vous voyez, 3 fois plus. Concernant les thématiques de recherche, on observe qu'elles sont beaucoup plus variées et étoffées, ce qui peut s'expliquer d'abord et tout simplement par le fait que les thèses elles-mêmes sont beaucoup plus nombreuses. Alors, je passe à un document Word où je vous ai mis un petit peu tous ces détails. Voilà. Donc, certaines thèses continuent à explorer des thèmes déjà abordés, les différences culturelles, la question des représentations ou encore les raisons d'apprendre le français. Par exemple, Zhang Yue propose une approche interculturelle de l'enseignement du FLE. Liu Chang s'intéresse aux France des Chinois, les France des Chinois, l'impact des représentations sur l'image de la France. Sur ces mêmes thèmes, certaines thèses proposent un éclairage nouveau. Alors, c'est le cas de Xiamin qui s'intéresse à la motivation des étudiants et aux raisons d'apprendre le français en faisant un lien avec l'attractivité des territoires, ce qui est assez original comme approche, ou Huang Lue, qui analyse le manuel de français le plus utilisé en Chine, dans le supérieur, à travers le filtre de l'altérité ou de l'identité. L'enseignement de l'écrit, mis en perspective avec les différences culturelles, attire aussi l'attention et a fait l'objet jusque-là de 3 thèses, celle de donc Agnès Pernelius sur le mémoire de fin d'études et 2 autres sur la dissertation en lien avec la question de l'argumentation. Les difficultés qu'éprouvent les étudiants chinois à apprendre le français sont aussi un objet d'études importantes, soit qu'elles soient analysées de manière globale, comme Wang Yijing, soit de manière plus spécifique dans le cadre de thèses qui pourraient s'inscrire en linguistique appliquée. Ce dernier point nous indique que la perspective des apprenants occupe une place croissante, ce que confirme par exemple la thèse de Li Yue sur les stratégies d'apprentissage de la grammaire des apprenants chinois, celle de Xu Richuan sur l'acquisition de l'imparfait, ou celle de Rou Shimei sur la nature des interactions verbales en classe de feu en Chine. du côté enseignant, Li Chengyun s'intéresse à l'enseignement du vocabulaire, Li Qing et Peng Mei à l'enseignement de la littérature. On a aussi, et de manière peut-être plus, plus générale, plus globale, tout à l'heure je parlais de la thèse de Wang Mingli sur, qui proposait une vision globale. Là, on a des thèses qui portent sur, par exemple, l'examen national, le TFS4, ou d'autres sur des dispositifs particuliers du type français de spécialité. Alors, il faut noter aussi que des chercheurs étrangers présents depuis de nombreuses années en Chine ont contribué à la constitution de ce corpus. Donc, j'ai déjà cité Agnès Pernelliou, moi-même, puisque je suis basé à Canton. Alors, oui, pardon, je continue. Ayant l'avantage de pouvoir bénéficier de l'expérience accumulée par leurs prédécesseurs, la plupart des auteurs choisissent des thématiques tournées vers les problématiques en lien avec les défis contemporains, comme s'il s'agissait de mieux comprendre, de mieux circonscrire à la fois ce terrain foisonnant de l'enseignement du français en Chine et les spécificités locales d'un champ disciplinaire encore minoritaire. Mais quelques auteurs vont plus loin. C'est le cas notamment de Xuyen dans sa thèse magistrale où elle questionne la notion de méthode traditionnelle chinoise, c'est une expression largement mobilisée dans les débats didactiques en Chine de nos jours et pourtant peu définie. Sa démarche historique lui permet de porter un regard critique sur plus de 150 ans de méthodologie d'enseignement du français en Chine. Elle complète une autre thèse qui avait été soutenue 5 ans plus tôt, celle de Dai Dongmei, qui a retracé l'histoire de la diffusion du français dans ce pays depuis 1850. L'aspect peut-être introspection disciplinaire, en tout cas, est poussé encore plus loin avec la thèse récente de Tian Yuan, puisqu'elle est la première, à ma connaissance, à poser la question de l'identité disciplinaire avec la notion de représentation disciplinaire qu'elle propose, notamment. Elle pose une réflexion salutaire sur ce qu'est exactement ce champ disciplinaire, le français en Chine, et la manière dont il est perçu par différentes parties prenantes. Il y a aussi la thèse de Mao Longkun qui pose la question de la contextualisation des approches méthodologiques étrangères. En rappelant d'ailleurs, oui, au passage que la question de la méthodologie d'enseignement reste quand même au cœur des débats didactiques de la francophonie universitaire chinoise. Ainsi, dans certaines de ces thèses de la deuxième génération, on remarque une différence de posture, je crois, plus critique ou à tout le moins de distanciation et d'introspection. Alors, au final, on peut dire que de nombreuses facettes de l'enseignement apprentissage du feu en Chine aujourd'hui sont passées en revue, avec l'habitude quasi systématique de proposer en fin de test des pistes, voire des solutions didactiques pour répondre aux problèmes soulevés. Signalons tout de même, puisque là j'ai parlé de thèse, que pour cette deuxième génération, comme pour les précédentes, la production de matériel pédagogique reste une activité importante, notamment la rédaction de manuels. Alors, je reviens à mon diaporama. Voilà. Hop.
Pour une petite conclusion, David, sinon on n'aura pas le temps pour la discussion.
Ah, c'est déjà fini?
Ouais, mais c'est pas grave. Prenez quelques minutes pour terminer.
D'accord, je n'avais pas vu les trois doigts. Bon. Alors, OK. Alors, mais, écoutez, pour la conclusion, je vais juste y aller là-dessus. C'est vrai que il faut faire attention quand on construit son objet de recherche. Donc, on est tellement focalisé là-dessus qu'on arriverait à mener une analyse un petit peu hors sol et oublier le contexte de l'objet à l'étude. Bon, tout ce que j'ai dit, je pense que ce sont des éléments importants, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'abord, il y a une histoire plus large qui est l'histoire de l'enseignement supérieur chinois cette recherche en didactique du feu, elle est aussi marquée par cette histoire-là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que cette didactique du feu, elle est quand même minoritaire dans la francophonie universitaire chinoise, c'est-à-dire que les chercheurs les recherches peut-être plus prestigieuses aussi, elles sont en littérature, en linguistique, en traduction, par exemple. Donc, il y a cette situation-là, c'est-à-dire que si on s'en tient qu'à mon exposé, on pourrait croire que c'est formidable, et ça l'est quand même, il y a une évolution absolument quantitative, qualitative absolument incroyable, bon, mais il y a quand même ça. Il y a aussi le positionnement par rapport au… parce que, comment dire, je dirais que les chercheurs en didactique du FLE en Chine sont… tiraillé entre d'un côté les études françaises, la discipline, le français, bon, et puis d'un autre côté, s'ils veulent aller sur le terrain de la didactique des langues étrangères, là on se retrouve face à un problème, c'est qu'ils pourraient publier des articles en chinois dans des revues en Chine, mais c'est vrai que c'est assez monopolisé par en fait les spécialistes de la langue anglaise, et il y a toujours quand même un… on voit que la recherche, elle est, comment dire, il y a des hiérarchies aussi par rapport à la langue utilisée. Et donc, c'est vrai que les publications en français sont vues comme étant… Enfin, il y a une suspicion sur la qualité, sur la… savoir si elles sont vraiment de qualité. Donc, du coup, c'est un petit peu complexe, il y a ce tiraillement-là. Mais je crois quand même qu'il faut relever ce défi parce que ce corpus… que je viens de montrer de thèse est de plus en plus étoffé. En Asie de l'Est et du Sud-Est, c'est clair que c'est la Chine qui produit le plus de thèses en didactique du FLE en français. Il y a le Vietnam où il y a, qui pourrait souffrir la comparaison, mais c'est tout. Donc, je crois qu'il faut… Parce que c'est vrai que la tendance pour les chercheurs en didactique du FLE en Chine, c'est quand même la déprime. Hein, c'est-à-dire que ces problèmes de reconnaissance… sont quand même considérables. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai fait un peu circuler cette recherche et que les gens se sont dit… Enfin, finalement, j'ai invité tout le monde à faire en sorte qu'on se regarde tous ensemble et les gens se disent « c'est pas mal quand même ». Voilà. Donc, il y a des défis à relever, mais il y a quand même une bonne base qui permettrait de les relever. Voilà. Bon, désolé pour ma conclusion un peu rapide, je n'avais pas fait attention. Je suis désolé. Voilà.
Merci infiniment pour cette recherche vraiment très intéressante.